classique, pourquoi pas, une émission présentée par Fabrice Renard. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi RCF. Vous écoutez Classique, pourquoi pas, votre mensuel dédié à la grande musique. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale Gustav Mahler, compositeur autrichien. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Madame Isabelle Landen, professeure de piano et d'histoire de la musique aux académiques Rétry de Liège et de Hanu. Brillante lauréate du Conservatoire Royal de Liège, vous avez étudié dans la classe du très renommé professeur Madame Longré-Poubet. Nous dédions volontiers cet instant radiophonique à tous vos élèves qui, j'en suis sûr, sont en ce moment très nombreux à l'écoute de leur dévoué professeur. Madame Landen, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre venue. 2010-2011, en quelque sorte, une double commémoration pour Gustav Mahler.
Et oui, puisque en 2010, nous fêtions le 150e anniversaire de sa naissance et en 2011, le 100e anniversaire du décès, puisque Gustav Mahler est né en 1860 et mort en 1911. Nous avons donc devant nous un compositeur qui a une ligne de vie d'un demi-siècle. Alors, nous venons de situer Gustav Mahler d'un point de vue chronologique. Je vais à présent le situer d'un point de vue géographique. Alors, il faut évidemment parler de l'Empire d'Autriche qui, au milieu du XIXe siècle, est une véritable mosaïque de cultures avec une juxtaposition turbulente de langues, de religions, de nationalités. Il s'agit en fait d'un vaste empire dont les contours et les limites ne sont pas encore fixés de manière définitive. Du nord de l'Italie à la Croatie, de Prague à Budapest, cet empire fédère tant bien que mal tous ces peuples aux histoires et aux traditions diverses. Et c'est au cœur de ce vaste empire d'Autriche que naît notre compositeur d'aujourd'hui, Gustav Mahler, le 7 juillet 1860, aux confins de la Bohême et de la Moravie, exactement dans la petite ville de Kalisz. Je pense qu'on prononce Kalisz, aujourd'hui donc en République tchèque. Les Mahler, par ailleurs, d'origine juive, appartiennent à la minorité germanophone de la population. Et cet enchevêtrement de cultures, culture germanique, culture bohémienne, culture israélite, inspirera plus tard au musicien Gustav Mahler une phrase devenue vraiment très célèbre. « Je suis trois fois apatride, comme natif de Bohême en Autriche, comme autrichien en Allemagne, comme juif dans le monde entier. Partout un intrus, nulle part désiré. » Quelle vision un peu pessimiste de la chose, hein ? Alors, sur le plan mélodique, la musique de Mahler met en évidence justement cet étonnant mélange culturel. Nous avons devant nous une sorte de patchwork stylistique mêlant des thèmes populaires de différentes origines. Alors, pour bien illustrer justement cette diversité culturelle au niveau sonore, nous allons écouter tout de suite un extrait de la célèbre première symphonie, la symphonie dite « Titan » par l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort dirigé par Eliaou Inbal. Et dans cet extrait, vous allez pouvoir entendre une succession de trois thèmes musicaux issus de folklore différents. Voici donc un extrait du troisième mouvement.
Thank you.
écoutez RCF, nous évoquons aujourd'hui le compositeur autrichien Gustav Mahler. Je reçois Madame Isabelle Landen. Pourriez-vous nous parler du parcours musical de Gustav Mahler ?
Bien sûr. Enfant, Gustav écoute avec émerveillement les musiciens de rue qui jouent notamment du cymbalum. Le cymbalum, c'est cet instrument dont nous avions parlé la fois dernière lors de l'émission consacrée à Franz Liszt. C'est un instrument typiquement tzigane. On l'associe souvent aussi à la musique hongroise. C'est un instrument avec des cordes frappées par des maillets, en quelque sorte l'ancêtre du piano. Donc il est fasciné par le cymbalum et il passe également des heures à pianoter sur le vieux piano désaccordé qui se trouve dans le grenier. Alors Bernard, son papa, jugeant que la vie ne l'a pas comblé selon ses mérites, il est aubergiste, il est marchand de liqueurs et il cherchera toujours à s'élever au-dessus de sa condition plus que modeste, eh bien Bernard nourrira pour son fils Gustave les plus hautes ambitions. Convaincu que son fils est fait pour une carrière musicale, M. Mahler inscrit Gustave au conservatoire de Vienne. Il y étudie là-bas en priorité le piano, mais aussi l'harmonie, le contrepoint et la composition. Et pendant ses études, il se découvre plusieurs atomes crochus, pourrions-nous dire, avec Robert Schumann. Robert Schumann, qu'il n'a jamais connu évidemment, puisque Schumann est décédé en 1856, 4 ans avant la naissance de Mahler. Schumann, vous vous en souvenez certainement, chers auditeurs, nous en avions parlé aussi lors d'une émission précédente. Et donc, Mahler est fortement attiré par le répertoire pianistique du compositeur allemand. Il obtient notamment un prix spécial à l'âge de 17 ans pour sa magnifique interprétation de l'humoresque de Schumann au piano. Alors, nous allons écouter un extrait de cet humoresque qui va vous permettre vraiment de bien cerner le tempérament de Mahler. On pourrait parler d'un dicton qui nous dirait ben, « Dis-moi ce que tu joues, je te dirai qui tu es ». Et c'est vrai qu'en entendant cette pièce, on peut vraiment bien cerner la personnalité de Gustav Mahler au tempérament fougueux, volcanique et même colérique. Ce petit clin d'œil à Schumann n'étonnera certainement pas mes élèves du cours d'histoire de la musique qui connaissent mon amour particulier pour le répertoire schumannien. Et pour cet humoresque, nous allons écouter le fameux pianiste Vladimir Ashkenazy.
Vous l'avez mentionné, Gustav Mahler était attiré par le répertoire pianistique de Robert Schumann, mais il avait également les mêmes goûts littéraires.
Et oui, tout à fait, Gustav Mahler dévore, tout comme Schumann, les œuvres de Goethe, Hoffmann, Rückert, Jean-Paul Richter, qui est dit aussi Jean-Paul, et qui est à l'origine de la composition de la symphonie dite Titan, puisque nous avons chez Jean-Paul Richter, un roman qui est appelé Titan. Et donc, parallèlement à la composition de nombreuses symphonies, on en compte 9 chez Mahler, plus une 10e inachevée qui ne comporte que 2 mouvements, il va composer de nombreux Lieder. Mais si chez Schumann, c'est le piano qui accompagnait la voix, chez Mahler, le Lied va prendre des dimensions beaucoup plus vastes grâce à l'emploi de l'orchestre en tant qu'accompagnement. Le Lied est un élément tout à fait omniprésent dans l'œuvre de Mahler, qui vouait une passion particulière pour l'art vocal. Il est d'ailleurs, il a eu une première passion amoureuse pour une chanteuse, il était passionné par l'opéra, il a dirigé énormément d'opéras, que ce soit à Vienne ou au Metropolitan Opera de New York, mais il n'a jamais composé lui-même d'opéra. En fait, le côté poétique et intimiste du Lied collait beaucoup mieux à sa sensibilité particulière. Alors je vous propose comme 3e extrait d'écouter un extrait des Rückert Lieder interprété par José Van Damme, accompagné par l'Orchestre Symphonique de la RTBF. dirigé par Ronald Zolman. Et c'est un extrait, en fait, vous le reconnaîtrez certainement, chers auditeurs, du très célèbre film Le Maître de musique.
Nous évoquons aujourd'hui Gustav Mahler et dans sa vie une figure féminine incontournable. Elle est appelée Alma.
Bien entendu, en novembre 1901, Gustav Mahler, alors directeur de l'Opéra de Vienne et compositeur déjà célèbre, rencontre Alma Schindler, de 20 ans plus jeune que lui, fille du peintre paysagiste Emil Schindler. Alors, cette jeune femme, issue d'un milieu cultivé et excellente pianiste, s'intéresse à l'art et étudie la composition avec Alexander von Zemlinsky, beau-frère et ancien professeur d'Arnold Schönberg, grande figure du dodécaphonisme. Alors, Mahler est resté, on pourrait dire, un vrai célibataire endurci jusqu'à la quarantaine, donnant alors la priorité à sa brillante carrière de chef d'orchestre et de compositeur. Et Alma, la jeune fille, en réalité, Mahler l'a une première fois entreaperçue 2 ans avant leur rapprochement, en 1899. La jeune fille lui avait, ce jour-là, demandé un autographe après un concert, sans qu'il l'ait réellement remarqué. Elle fut vraiment vexée, et l'année suivante, elle a assisté pleine de colère et de rancune à la création viennoise de la première symphonie, dite Titan, dont nous avons écouté un extrait en tout début d'émission. Alors, Alma Schindler éprouvait une passion pour la musique et s'adonnait à la composition de Lieder. Elle obtempéra cependant au diktat de Mahler lorsque celui-ci, au moment de l'épouser, lui demanda de renoncer à composer. Il estimait, racontera Alma, que l'union de Robert et Clara Schumann avait été ridicule et que je devais choisir. Souvenez-vous, lors de l'émission consacrée à Robert Schumann, nous avions évoqué la brillante carrière de sa femme, fait vraiment exceptionnel pour une femme au XIXe siècle. Alors Mahler disait « N'était-il pas possible de considérer ma musique comme la tienne? Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux. » Autrement dit, il faut qu'Alma renonce à composer. Et elle cède. Le mariage est célébré le 9 mars 1902. Alors, parlons un petit peu de la lune de miel qui se résume en un voyage à Saint-Pétersbourg et à Varsovie où Mahler dirige Haydn, Schubert, Beethoven, Wagner, autrement dit, priorité donc encore à sa carrière. Alors le rôle d'Alma, donc vous l'avez bien compris, était de soutenir son époux dans sa brillante carrière de chef d'orchestre et compositeur. C'est elle, par exemple, qui recopiait au nez les partitions griffonnées par son époux. Quel dévouement extraordinaire, n'est-ce pas? Alors l'année du mariage est aussi celle de la composition d'une symphonie magnifique, la 5e symphonie, que vous connaissez certainement par le biais d'une deuxième bande originale du film. Nous avons évoqué tout à l'heure le maître de musique. Il s'agit ici de Mort à Venise, le célèbre film de Visconti en 1971. Nous écoutons maintenant un extrait de l'Adagietto, le 4e mouvement, par le Berliner Philharmoniker dirigé par Herbert von Karajan.
Après le mariage, c'est la période heureuse. Le couple accueille deux petites filles.
Effectivement, en 1902, c'est la naissance de Maria, appelée familièrement dans la famille Puzzi. Elle sera la fille préférée de Gustave. Il passe des heures à lui raconter des histoires, à faire des promenades dans la nature avec elle. 2 ans plus tard, naît Gouki, c'est le surnom de la deuxième fille, Anna. Or, paradoxalement, pendant ces années d'intense bonheur, Gustave se consacre à l'élaboration des magnifiques Kinder Totenlieder, ce qui signifie les chants pour les enfants morts. La composition s'étale exactement de 1901, qui est l'année du mariage, à 1904, qui correspond à la naissance de la deuxième petite fille. Alors, les Kinder Totenlieder faisaient frémir Alma, qui avait peine à concevoir que l'on puisse composer une œuvre sur un thème aussi morbide lorsqu'on nage dans le bonheur avec une jeune épouse et deux magnifiques enfants pleins de vie. Je dois vous dire aussi que moi, en tant que maman d'un beau petit Julien de 9 ans et demi, c'est quelque chose qui me donne vraiment la chair de poule. Alors, pour mieux comprendre l'état d'esprit de Malheur, il faut savoir qu'il était issu d'une famille de 14 enfants et qu'il a perdu pas moins de 7 frères et sœurs. Lui-même avait une santé très fragile, des problèmes cardiaques qui l'emporteront prématurément à l'âge de 51 ans. Avec le recul, nous pouvons vraiment dire que Gustave Mahler avait eu, avec la composition de ce recueil des Kinder Totenlieder, une sombre prémonition, car la fille aînée, Puzzi, va s'éteindre à l'âge de 5 ans, en 1907. Et c'est vers la poésie de Rückert, chère à Schumann, que Mahler se tourne de nouveau pour cette œuvre bouleversante que nous allons entendre à présent. Rückert, lui, avait rédigé ses poèmes après la perte de son fils Ernst. Nos auditeurs pourront y entendre l'influence de Richard Wagner, compositeur dont Mahler adorait diriger les opéras. Alors plongeons-nous tout de suite avec émerveillement dans le deuxième des Kinder Totenlieder avec la magnifique voix de Birgitta Svenden accompagnée par l'Orchestre National de Nice.
Vous écoutez Classique Pourquoi pas, une émission à réaliser en partenariat avec les établissements Pema Musique rue Lérès 62 à 4020 Liège. Terminons cette émission par une touche d'optimisme avec la Symphonie des Mille, une œuvre qui valut à Mahler son plus grand triomphe en qualité de compositeur.
Et oui, c'est une symphonie extraordinaire qui fut composée en seulement 2 mois, pendant les mois de juillet et août 1906, ce qui est tout à fait caractéristique chez Mahler en fait, le fait de composer en été. Il ne composait que pendant, dirions-nous, les grandes vacances, donc juillet-août. dans sa fameuse cabane à composer qu'il se faisait construire au fond du jardin dans chacune de ses propriétés. Et c'est Alma, l'épouse dévouée évidemment, qui remettait au nez les partitions sorties toutes chaudes et fumantes de la cabane à composer. Le titre des 1000 pour cette 8e symphonie, trouvé en fait pour des raisons de publicité par l'impresario de Mahler, provient des effectifs considérables employés pour la partition. Il n'y a pas exactement 1000 musiciens, mais ils sont cependant très nombreux. Elle requiert, cette symphonie, en effet, 2 sopranos, 2 altos, un ténor, un baryton, une basse, un chœur d'enfant, un double chœur d'adulte et enfin un gigantesque orchestre. L'œuvre est vocale, de bout en bout. Alors la 8e symphonie est une œuvre très optimiste, qui respire la confiance en soi. Et voici ce qu'en disait Gustav Mahler. Cette symphonie est un don à la nation. Toutes les précédentes n'étaient que des préludes à celle-ci. Mes autres œuvres sont tragiques et subjectives. Celle-ci est une immense dispensatrice de joie. Et pour ce 6e et dernier extrait musical, je vous propose d'écouter la Staatskapelle de Berlin, dirigée par Pierre Boulez.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, mais tout d'abord, je voudrais remercier une fois de plus Madame Isabelle Landen pour sa présence dans nos studios aujourd'hui.
Ah, mais ce fut un réel plaisir pour moi.
Un plaisir en tout cas partagé et que l'on remettra promis juré. À la prochaine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Au revoir, Madame Landen.
Au revoir.
Et à bientôt. Au revoir.